la carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre fidélité. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le processus de paix en Centrafrique avec cette question. Comment sauver le 8e accord de paix conclu en 5 ans? Le texte signé le mois dernier prévoyait, vous le savez, la formation d'un gouvernement inclusif. Tous les groupes armés s'attendaient donc à rejoindre la nouvelle équipe gouvernementale. Seulement voilà, sur les 14 mouvements, seuls 6 ont obtenu des ministères et aucun portefeuille régalien. Alors certains ont donc annoncé leur retrait du processus de paix. Depuis hier, l'Union africaine tente, tant bien que mal, de sauver cet accord. Le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine rencontre un par un les représentants des 14 groupes armés. Alors comment sortir de l'impasse? Faut-il revoir la composition du gouvernement et accorder finalement plus de place aux groupes armés? On en parle dans une demi-heure sur RFI. Vos réactions évidemment nous intéressent. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, à cette heure-ci, vous le savez, ce sont les journalistes des RFI, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde qui répondent à toutes vos questions. Maria Emilia Lencar, de la rédaction brésilienne, est à mes côtés. Bonjour Maria Emilia.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Nous avons des questions sur l'assassinat de Marielle Franco, cette élue de Rio de Janeiro, abattue il y a un an et dont le meurtre, on s'en souvient, avait provoqué de nombreuses manifestations au Brésil. C'est Rousseau qui vous pose des questions, Maria Emilia. Bonjour Rousseau.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Merci de nous appeler de la République démocratique du Congo. Nous vous écoutons.
Il y a une année que la conseillère municipale Marielle Franco a été assassinée au Brésil. Des policiers ont été arrêtés et sont soupçonnés du meurtre. Pourquoi les policiers ont tué Marielle Franco? L'un des policiers habite dans l'immeuble où habitait Jair Bolsonaro avant d'être élu président. Ce dernier a-t-il un lien sur ce meurtre?
Ah, bonne question. C'est vrai que c'est une coïncidence pour le moins troublante. L'un des deux policiers soupçonnés vivait effectivement dans la même résidence que le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro. Maria Emilia Lencar, l'enquête avance lentement, mais elle avance puisque deux anciens policiers ont été arrêtés. Quel pourrait être le mobile de ce meurtre? Pourquoi aurait-il assassiné cet élu de Rio de Janeiro?
Écoutez, je pense que l'enquête avance. C'est une étape peut-être importante, mais cette prison est loin d'élucider ces crimes dont l'investigation piétinait depuis un an. D'ailleurs, tous les proches de Marielle Franco veulent savoir qui a ordonné de la tuer. Ils exigent la découverte de mandataires de ces crimes. Selon beaucoup d'indices, les deux suspectés de l'avoir exécuté travailleraient était lié probablement avec les milices, des groupes paramilitaires formés d'ex-policiers qui font régner leurs lois dans certains favelas et disputent les contrôles des favelas avec les narcotrafiquants.
Trafiquants, oui.
Voilà. Ces groupes criminels existent à Rio depuis une vingtaine d'années et raquettent ces populations des favelas en échange d'une protection contre les trafiquants de drogue. Donc, les milices sont vraiment une piste d'investigation assez importante. Marielle, 38 ans, fortement engagée contre le racisme, contre l'homophobie et les violences policières. Et elle a travaillé pendant longtemps avec un député qui s'appelle Marcelo Freixo, du Parti Socialiste et Liberté, qui, en 2008, avait démasqué ces puissantes milices. Il était d'ailleurs menacé de mort. Il a dû même partir un peu du pays. Et je pense qu'il il bénéficie d'une espèce de protection policière. Et Marielle travaillait comme assistante pendant longtemps pour ce député. Donc, elle était probablement une cible pour ces milices. Elle faisait aussi un travail de activisme dans les bidonvilles liés aux affaires d'appropriation foncière illégale, par des membres de ces milices. Donc, elle était là pour sensibiliser les gens de ces quartiers à la question de cette propriété foncière. Donc elle dérangeait,
on comprend qu'elle dérangeait.
Complètement. Oui. Elle dérangeait et ces milices ont un grand pouvoir. Alors, l'enquête qui avait fait du surplace depuis un an, on dit que la prison, il y a beaucoup de gens qui disent que la prison de ces deux ex-policiers peut être aussi un écrin de fumée. On verra comment l'enquête va progresser à partir de maintenant.
Alors, ça n'a échappé à personne et à Rousseau, notamment notre auditeur de République démocratique du Congo. Il se trouve que l'un de ces deux anciens policiers, soupçonné donc d'avoir assassiné Marielle Franco, habitait dans la même résidence que Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien. Faut-il y voir un lien? Peut-on peut-être s'attendre à des poursuites contre le nouveau président?
Poursuite, pour l'instant, non. C'est effectivement une étrange coïncidence. Il y a beaucoup d'étranges coïncidences. Le président possède deux maisons dans cette même résidence. Et le parquet de Rio dit qu'il s'agit d'une coïncidence. D'ailleurs, Bolsonaro, il est en ce moment à Washington. Il était interviewé hier soir par la Fox télévision. Et il a dit, écoutez, c'est pas vraiment, il habitait de l'autre côté de la rue, c'est pas une preuve. Mmh. Effectivement, cela n'est en rien une preuve d'un possible lien entre les présidents et ce meurtre. Cependant, il a croisé la route non seulement de celui-là, mais de l'autre aussi. Ah. Puisqu'on a vu pendant dans tous les réseaux sociaux une photo postée de l'autre policier, une photo avec Bolsonaro.
C'est-à-dire que le nouveau président brésilien a déjà eu l'occasion par le passé de rencontrer à une ou plusieurs reprises ces deux fameux policiers.
Exactement. Mmh. Et il a dit aussi, il a parlé à Fox hier soir, mais moi j'ai fait des photos avec tous les militaires, je suis un capitaine, donc je fais des photos avec tous les militaires de Rio. Donc rien prouve ça. Mais c'est très trouble et on peut pas développer ici. Oui. Mais c'est extrêmement trouble les relations entre les clans Bolsonaro et les milices.
À suivre donc. Merci beaucoup Maria Emilia Lencar. Rousseau, on vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir appelé.
Merci Juan.
Et bonne journée. Merci à Maria Lencar, évidemment, 9h17 à Paris. Vos questions, 33 9 693 693 70. On va parler maintenant d'un autre assassinat. Lui aussi avait bouleversé tout un pays il y a plus d'un an. L'assassinat du journaliste slovaque Jan Kuciak. Bonjour Georges.
Bonjour Juan Gomez et bonjour les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Cotonou, vous-même slovaque.
Je suis à Cotonou.
Je suis slovaque. Et vous disiez avoir été, comme de nombreux citoyens slovaques à l'époque, bouleversé, choqué par cet assassinat qui fait encore l'actualité. D'où vos questions, Georges.
Très bien, très bien. J'aimerais, ma première question amène sur l'homme d'affaires slovaque Marian Kočner, qui est inculpé pour avoir commandité le meurtre du journaliste Jan Kuciak avec son compagne. Pourquoi ce dernier a voulu assassiner le journaliste? C'est ma première question, ça.
Alors, restez en ligne, on va essayer d'y répondre, évidemment, avec notre correspondant régional, Alexis Rosenzweig. Bonjour.
Bonjour à tous.
Pourquoi le très puissant homme d'affaires Marian Kočner aurait-il ordonné le meurtre de ce journaliste d'investigation?
Eh bien, une chose est sûre, c'est que Marian Kočner n'aimait pas du tout qu'on mette le nez dans ses affaires. Et jeudi dernier, Georges le disait, il a été inculpé, Marian Kočner, officiellement, et le procureur a confirmé que le travail journalistique de la victime avait été la raison du meurtre. Quatre autres personnes impliquées dans ce meurtre avaient déjà été inculpées l'année dernière, dont l'ancienne interprète de Marian Kočner. Alors, Marian Kočner, c'est un milliardaire de 55 ans qui a fait des affaires, notamment grâce à des liens avec l'ancienne police communiste de Tchécoslovaquie, des affaires douteuses. Il est d'ailleurs déjà en prison, Marian Kočner, dans le cadre d'une autre affaire. Et il faisait beaucoup chanter les responsables politiques et les magistrats. C'est ce que me disait récemment à Bratislava Adam Valček, un collègue de Jan Kuciak, que j'ai rencontré et qui a eu aussi des gros problèmes avec Marian Kočner. Ce dernier lui avait envoyé plusieurs messages très menaçants concernant sa vie privée et sa vie familiale, avec des détails qu'il connaissait dont ne sait où. Et Marian Kočner avait également menacé très clairement Jan Kuciak quelques mois avant son assassinat. Il l'avait menacé au téléphone Yann Kuciak avait enregistré la conversation et il avait même porté plainte.
Effectivement, et Yann Kuciak s'apprêtait à publier quelques jours avant sa mort une enquête sur les liens présumés entre des hommes politiques slovaques, la mafia italienne. Il s'intéressait effectivement à cet homme d'affaires. Il avait donc de nombreux ennemis. Vous aviez une autre question, Georges ?
Est-ce que l'ancien Premier ministre Robert Fico, qui a été éclaboussé, peut-il inquiété par la justice slovaque ?
Alors, Robert Fico, qui était effectivement Premier ministre à l'époque des faits, a dû démissionner après ce double meurtre, un double meurtre qui a d'ailleurs provoqué une crise politique à tel point que le Premier ministre a dû jeter l'éponge. C'est une question pertinente que nous pose notre auditeur, Alexis Rosenweg. Peut-on s'attendre à ce que l'ancien Premier ministre soit entendu ou inquiété par la justice ?
Oui, et évidemment, une question très pertinente, d'autant que je vous entendais parler des coïncidences troublantes au Brésil. Il y a également en Slovaquie, à Bratislava, des coïncidences troublantes parce que Robert Fico, donc l'ancien Premier ministre, a habité dans la même résidence que Marianne Kouchner à Bratislava, une résidence luxueuse. Et vous le disiez, quelques jours après l'assassinat de Yann Kuciak et de sa compagne, Robert Fico a été contraint de démissionner. Mais il reste encore l'homme fort du pays, il a nommé son propre successeur. Alors pour l'instant, il faut bien préciser, pour l'instant il n'y a aucune preuve contre lui, que ce soit dans les affaires de liens entre la mafia italienne et le gouvernement dont Yann Kuciak parlait dans son dernier article. Ce qui est sûr, c'est que le choc provoqué par l'assassinat de Yann Kuciak a suscité une telle mobilisation des Slovaques et un tel élan que aujourd'hui, on le voit actuellement en Slovaquie avec l'élection présidentielle, cet élan a profité à la candidate Zuzana Čaputová. Elle vient de remporter le premier tour, le deuxième tour est prévu le 30 mars. Alors on peut dire que le vent est en train de tourner en Slovaquie, en tout cas de tourner légèrement. C'est difficile aujourd'hui de dire que si cela aura une influence sur d'éventuelles poursuites de l'entourage de Robert Fico ou de Robert Fico lui-même. Mais il est sûr aujourd'hui que la position de Robert Fico devient de moins en moins confortable après quand même une dizaine d'années passées au pouvoir en tout.
Georges, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui. Merci beaucoup, c'est très bien.
Eh bien, on remercie surtout Alexis Rosenweg, correspondant régional de RFI. Bonne journée à tous les deux, 9h23 à Paris. Vous continuez évidemment à nous appeler, 33 9 693 693 70. On en parlait vendredi dernier dans la Libre Antenne, la grève des enseignants au Mali. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de l'RFI.
Vous êtes à Bamako, dans la capitale malienne. Vous avez plusieurs questions concernant cette grogne des enseignants dans votre pays.
Exactement. Les enseignants sont à nouveau en grève au Mali pour 15 jours. Est-ce que le Mali se dirige vers une année blanche ?
Ah, je ne sais pas si Serge Daniel, correspondant de RFI à Bamako, a une boule de cristal pour nous dire si le pays se dirige vers une année blanche. En tout cas, la question est très sérieuse. Bonjour Serge.
Bonjour.
Elle est d'autant plus sérieuse qu'il y a quelques jours sur notre antenne, le porte-parole des 11 syndicats d'enseignants en grève affirmait que si rien n'était fait rapidement, c'était inévitable, il y aura une année blanche.
Oui, tout à fait. Disons les choses clairement, après avoir contacté des enseignants, des responsables pédagogiques, si rien n'est fait très rapidement, c'est une question de jours, deux semaines maximum, m'explique-t-on ici, on se dirige vers une année blanche dans le secteur de l'éducation publique au Mali. Ici, on n'a pas bouclé le second trimestre, par exemple, Wana, et la grève de plus de 60 000 enseignants se poursuit. Le ministre malien de l'éducation, qui est un enseignant également, lui-même, professeur à Benou Témé, il a dit récemment, il a dit, je le cite, il n'est de l'intérêt de personne que les enfants perdent une année. Fin de citation, c'est que ce risque existe. Vous avez également des propos d'élèves de lycéens. Pour l'année académique 2018-2019, par exemple, explique l'un d'eux, nous n'avons pas totalisé deux mois de cours. Un autre explique que si la grève n'est pas rapidement suspendue, pour leur permettre de faire des cours de rattrapage, l'année sera forcément blanche.
Concrètement, Serge Daniel, que réclament les enseignants qui sont certes en grève pour 15 jours, mais qui étaient déjà en grève il y a quelques semaines, il y a quelques mois? Quelles sont leurs exigences?
ce sont des grèves à perler. Vous avez... Il y a 10 revendications, mais et 3 essentiellement. Il y a l'octroi d'une prime de logement au personnel, des indemnités de déplacement, des allocations. Voilà ce qu'ils demandent essentiellement. Le Premier ministre a reçu au moins 8 syndicats de grévistes il n'y a pas longtemps, mais la situation est toujours bloquée, et les associations musulmanes, des associations musulmanes du Mali, projettent d'ailleurs, face à cette situation, d'organiser une marche ce vendredi.
À suivre donc cette marche, on aura certainement l'occasion de reparler de ce sujet vendredi dans la Libre Antenne. En tout cas, le gouvernement, lui, assure ne pas avoir les moyens de répondre aux revendications, ne pas avoir les moyens financiers. Jean-Pierre, vous aviez une autre question?
Oui, effectivement. L'UNICEF aide à financer le Mali, particulièrement l'éducation du Mali. Cette nouvelle grève ne risque-t-elle pas de compliquer les relations entre le pays et ses bailleurs de fonds?
Ah, et notamment l'UNICEF. Serge Daniel.
Oui, la grève se déroulant sur tout le territoire national, cela empêche évidemment à des endroits l'UNICEF, c'est-à-dire le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, et d'autres ONG de travailler dans le secteur de l'éducation. Il y a notamment un programme de création de cantines scolaires, c'est très important, pour encourager les enfants à aller à l'école. La grève bloque désormais à des endroits ce projet. Mais il ne faut pas oublier, Juan, c'est très important, que 700 écoles, je ne dis pas classes, 700 écoles,
ah oui,
sont également fermées au Mali pour des raisons d'insécurité, ce qui empêche également ces ONG de travailler sur le terrain. Vous voyez, le secteur de l'éducation nationale en Mali est bel et bien en crise.
Oui, effectivement. Jean-Pierre, vous qui êtes sur place, vous êtes peut-être parent d'élèves, vous comprenez cette grève ou pas?
Ah ben oui, ouais. Justement, c'est pour cela même que j'ai posé la question, c'était juste dire que aujourd'hui, Juan, c'est un problème capital pour tout le monde, parce que les enseignants sont décidés d'aller au front, d'aller au bout de leurs revendications, et c'est un problème qui est là. Et personne n'en prend garde, parce que nous ne sommes pas sur nos qui vivent. Le début, personne, on pensait que c'était quelque chose qui allait être passagère.
Oui.
Mais maintenant, c'est comme maintenant, ça devient un problème et
récurrent.
Capital, les écoles capital. Privées se sont limitées dedans.
Oui. Et d'ailleurs, on a pu entendre Malik Koulibaly, le président de la Commission nationale des droits de l'homme au Mali, rappeler aux enseignants, mais aussi au gouvernement, que l'éducation était un droit fondamental garanti par la Constitution. Donc il faut absolument que les enseignants et les ministres concernés s'entendent pour que les cours reprennent. Vous êtes parent d'élèves, vous êtes enseignant, vous êtes peut-être étudiant, lycéen, collégien, appelez-nous. Vous pourrez évidemment réagir à ce sujet qui ne vous laisse pas indifférent au Mali. Ce sera le cas notamment vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. On avait prévu d'autres questions. Malheureusement, le temps passe très très vite. Donc Moussa, ne vous inquiétez pas. On vous rappellera d'ici la fin de la semaine. Vous pourrez poser vos questions sur ce naufrage au large des côtes françaises. Le naufrage du Grande America qui vous interpelle. On garde vos coordonnées. Et c'est promis, je prends l'engagement ce matin. Nous vous rappellerons, évidemment. J'en profite, puisqu'il me reste une petite minute, pour vous rappeler que demain, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, RFI vous proposera à cette heure-ci une émission spéciale présentée par Pascal Paradou. Pascal qui vous propose de jouer avec la langue française. Nous, tous francophones que nous sommes, avons-nous les mêmes expressions, les mêmes proverbes pour dire l'amour, l'amitié, la douleur, le bonheur ou la fatigue? Par exemple, pour dire qu'un homme ou une femme est infidèle, en France, on dit qu'il ou elle a des cornes. Vous, que dites-vous? On a envie de vous entendre, on a envie de connaître vos expressions. Donc inscrivez-vous dès maintenant, 33 9 693 693 70. Jouons demain matin avec la langue française. Et savez-vous quoi? Vous pourrez jouer en direct, notamment avec Rémi Ngono, amoureux des proverbes. Il en invente quasiment tous les jours. Il sera dans ce studio pour jouer avec vous, aux côtés de Pascal Paradou. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir d'autres exemples d'expressions, rendez-vous dès maintenant sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et on revient tout de suite après pour débattre ensemble du processus de paix en Centrafrique. Comment sauver l'accord de paix conclu il y a un peu plus d'un mois?
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.